Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour cette soirée dont on peut se dire c'est peut-être quand même un peu malheureux finalement de se rassembler sur la question du mal, quoi. C'est-à-dire que être aussi nombreux sur la question du mal, c'est peut-être quand même symptomatique de quelque chose. Peut-être symptomatique du fait que c'est quand même assez bien partagé et que tous, d'une manière ou d'une autre, nous y sommes confrontés, nous avons quelque chose à en dire, en tous les cas, nous en pensons quelque chose, ou nous aimerions y comprendre quelque chose. Et donc, pour essayer de déblayer un peu le terrain, nous avons, avec mon collègue Marc Pernot, pensé cette soirée qui est sous l'angle du partenariat avec le Fonds Ricoeur. Le Fonds Ricoeur, c'est ce fonds qui est abrité à la Faculté de théologie protestante de Paris, boulevard Arago, qui a été constitué grâce au legs que le philosophe Paul Ricoeur a fait, le legs de sa bibliothèque, de ses manuscrits. Et Olivier Abel a pu organiser un Fonds Ricoeur en rassemblant différents partenaires, parmi lesquels l'Oratoire du Louvre, qui a contribué financièrement à la création physique du bâtiment abritant le Fonds Ricoeur, et qui, chaque année, délivre des bourses d'études pour des étudiants que l'on appelle post-doctorants, donc qui sont déjà docteurs, alors docteurs en philosophie, docteurs en herméneutique, docteurs en théologie, docteurs, peut-être en médecine un jour, et qui souhaitent poursuivre leurs recherches. Et on sait que les études post-doctorales sont assez mal subventionnées en France, et c'est la raison pour laquelle on souhaitait pouvoir abonder dans ce fonds qui permet justement à des étudiants de poursuivre leurs recherches, d'être encore plus pointus et d'être au niveau où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois affûtés sur un thème et en situation de rendre le thème compréhensible, intelligible par tout un chacun. Car le philosophe Paul Ricoeur, en dépit des rumeurs qui courent autour de lui, avait le souci de s'adresser à tout le monde. Alors, quand il s'adressait à des universitaires, il s'adressait comme on s'adresse à des universitaires, mais il avait aussi la simplicité de s'adresser avec simplicité aux personnes qui n'avaient pas forcément les éléments de connaissance philosophique. Alors, ce soir, nous avons donc la chance de vous accueillir tous les deux, Alberto Romel et Eleonore Dispersin, qui est tous deux donc lauréats de cette bourse Ricoeur pour cette année. Vous avez chacun vos lieux de prédilection pour la recherche, vos dadas en quelque sorte. Pour Alberto, c'est plutôt sur la question de l'herméneutique. Et pour Eleonore, c'est plutôt la question d'Emmanuel Kant. C'est peut-être, on pourrait dire, il y a un seul Emmanuel Kant et Eleonore sera bientôt son prophète. Nous avons essayé de faire en sorte que cette soirée vous donne matière à vous exprimer sur des sujets que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle on a abordé le thème du mal qui n'est pas votre objet de recherche à travers deux figures qui, par contre, sont des figures qui vous sont assez intimes. Augustin, puisque Alberto a fait une partie de son travail de recherche sur Augustin, et puis Emmanuel Kant, donc inévitablement pour...
Par contre, je précise que le thème du mal, c'est mon sujet de recherche.
Le thème du mal, c'est son sujet de prédilection. Donc elle a quand même une longueur d'avance sur Alberto.
Exactement.
Donc il faudra essayer de rectifier un peu et de réajuster. Voilà, donc on vous laisse la parole l'un et l'autre 20-25 minutes pour présenter chacun votre approche. Et puis ensuite, bien entendu, l'idée est que nous puissions interagir avec eux, à la fois pour des éléments de compréhension, même si on a été très clair pour que ce soit limpide, mais il peut toujours y avoir des éléments de compréhension, et puis après pour débattre, pour dialoguer, pour aussi mettre en perspective, et puis peut-être parler un peu de l'approche de Paul Ricoeur sur la question du mal. Bien, ben, je commence chronologiquement par Alberto.
Bien sûr.
Bonsoir. Alors, justement, le mal, c'est pas... Je suis pas un expert de la question du mal chez Saint-Augustin, chez Augustin. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, parce que notamment Ricoeur, il s'est occupé de la question du mal chez Augustin. Alors, j'aimerais commencer avec un conseil. Les philosophes, ils ont la mauvaise habitude de conseiller de commencer à lire Augustin à partir de les confessions, et plus en particulier à partir du livre 10 et du livre 11. Il s'agit des livres philosophiques par excellence. Le livre 10, c'est le livre sur la mémoire, et le livre 11, c'est le livre sur le temps. Moi, je vous conseille de commencer à lire Augustin, bien sûr avec les confessions, mais à partir des premiers livres, les livres biographiques, autobiographiques. Et notamment, ce que je vais faire ce soir, c'est d'essayer de lire Augustin à partir des livres 7 et 8 des confessions. Le livre 7, c'est là où il décrit son attachement à la secte des manichéens et son refus de cette théorie, de cette secte. Et par contre, le livre 8, c'est là où il parle de la confession, en particulier de la lecture des épîtres de saint Paul. Alors, il y a une autre mauvaise habitude chez les philosophes, et c'est de lire souvent les philosophes, de partager les théories des philosophes en deux parties. Alors, on trouve un premier Heidegger, un deuxième Heidegger, on trouve un premier Wittgenstein, un deuxième Wittgenstein. Et c'est la même chose chez Augustin, souvent, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. On a eu l'habitude de lire Augustin et de dire que chez Augustin, il y a deux doctrines du bien et deux théories du mal. Alors, pour ceux qui regardent le bien, il y aurait une première partie de la pensée d'Augustin où Augustin, il dit que le bien, ça dépend de la liberté humaine. Le bien, c'est quelque chose qui dépend de l'homme, et l'homme, c'est tout à fait libre de faire ou ne pas faire le bien. Par contre, il y aurait eu une sorte de tournant, une sorte de conversion chez Augustin, où le mal ou le bien devient quelque chose qui dépend exclusivement de la grâce de Dieu. Et on peut dire la même chose de la question du mal. Alors, il y aurait eu un premier Augustin où le mal, c'est tout à fait quelque chose d'éthique, donc quelque chose qui dépend complètement de la liberté humaine. C'est l'homme qui choisit si faire le bien ou faire le mal. Et il y aurait eu un deuxième Augustin où l'homme est toujours responsable du mal, mais il est responsable à cause du péché originel. Donc, ce que moi je vais essayer de faire, c'est je vais suivre jusqu'à un certain point cette lecture dichotomique. Donc, je vais dire que chez Augustin, il y a un mal éthique, un mal qui dépend seulement de l'homme. L'homme est libre de choisir. Et je vais suivre aussi l'idée d'un mal tragique, ou je dirais quasi tragique chez Augustin, donc où le mal dépend du péché originel. Mais je vais aussi apprendre une troisième partie chez Augustin, et où le mal serait proprement tragique. Donc, dans mon intervention, je vais parler de trois typologies du mal chez Augustin. Et je vais faire ça pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, parce que je crois que, historiquement, si on prend les textes d'Augustin, on ne trouve pas vraiment seulement deux théories du mal, on en trouve trois, on pourrait dire qu'il y en a quatre aussi, il y en a plusieurs, c'est toujours difficile à dire. Et surtout, on trouve des textes qui ont été écrits plutôt tardivement, et que pourtant, donc tardivement, dans l'époque où Augustin, vraiment, normalement, il s'occupe d'un mal, que c'est le mal du péché originel, et pourtant, il traite encore le mal comme une question purement éthique, qui dépend complètement de la liberté humaine. Notamment, on le trouve, par exemple, dans le 12e livre de la Cité des Dieux, par exemple. Et d'ailleurs, on trouve des livres qui sont, qui ont été écrits avant le 400, et que, dans lesquels, pourtant, Augustin, il s'occupe du péché originel. Là où normalement on considère qu'Augustin, c'est chez Augustin, il y a seulement la question du mal éthique. Donc, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que cette dichotomie, cette distinction, ils sont utiles seulement là où après on essaie de les articuler. Et troisièmement, je crois que chez Augustin, Augustin c'est un des rares cas où la pensée et l'existence. L'existence influence la pensée. Et chez Augustin, on ne trouve pas seulement une conversion, mais on trouve deux. Selon quelqu'un, on trouve trois conversions. On pourrait dire même quatre conversions. Il y a la conversion à la sagesse, donc à la philosophie. Il y a la conversion à le christianisme. Il y a la conversion au néoplatonisme, donc à une certaine tradition philosophique, mais il y a aussi une conversion à la lecture des textes et à la foi en Jésus-Christ comme le seul interprète possible. Donc, on va commencer avec la première partie, qui est sur le mal éthique. Alors, dans cette première partie, je vais parler des trois traditions différentes. La tradition manichéenne, je vais expliquer qui étaient les manichéens, la secte chrétienne des manichéens. Dans une deuxième partie, je vais parler du néoplatonisme. Et là aussi, je vais dire qu'est-ce que c'était la tradition néoplatonicienne. Et la troisième partie, je vais parler proprement d'Augustin. Donc, la première partie, le premier paragraphe de cette première partie, on pourrait l'intituler « Les manichéens, un mal radical et originaire ». Alors, les manichéens, c'était une secte qui admettait en quelque manière un autre principe mauvais à côté de Dieu, contre lequel Dieu lui-même avait commencé une véritable bataille. Dans le troisième livre, alors dans cette partie, désolé, dans cette partie, je vais faire référence surtout au septième livre des Confessions et à un autre texte qui s'appelle De Natura Bon, la nature du bien. Et c'est probablement le texte le plus important sur le mal chez Augustin. Et c'est intéressant parce qu'il s'intitule La nature du bien, là où il parle du mal. Mais bon. Alors, dans la troisième partie du De Natura Boni, Augustin décrit la doctrine des Mani, qu'on trouve notamment dans deux textes perdus maintenant, qui s'appelaient Le trésor de vie et L'épître du fondement. Mani raconte que certains esprits de la lumière auront été vaincus par la race des ténèbres, suite à une bataille commencée par Dieu lui-même qui se sentait en quelque façon menacé. Donc une partie de la nature bonne de Dieu a été donc faite prisonnière de la région des ténèbres. Il s'agissait pour Dieu de la libérer. C'était ça le problème pour Mani. Soit en plein divin, les vertus de la lumière, donc la lumière, se seraient transformées en belles femmes et en beaux hommes qui se seront présentés face aux hommes et aux femmes des ténèbres pour enflammer le désir. La conséquence, c'est que la substance vitale qui vient libérer, fait retour à la lumière. C'est une sorte de mythologie, celle de Mani. Tandis qu'une partie qui aurait resté prisonnière des ténèbres serait tombée sur la terre. Donc il y a ce combat, la lumière perd, est faite prisonnière, une partie vient libérer, mais une autre partie reste prisonnière et tombe sur la terre. Donc c'est pour ça que Mani il dit qu'il y a entre les hommes, il y a certains élus qui doivent, à travers la nourriture, ils doivent de nouveau libérer les esprits de la lumière. Donc, Augustin, il décrit toute cette démarche, cette cosmogonie manichéenne, et il la critique sur deux plans, un plan théorique et un plan plutôt moral. Donc, sur un plan théorique, il la condamne parce que, en fait, il dit les manichéens ils reconnaissaient trop d'ordre dans le mauvais principe des ténèbres et trop de désordre en Dieu. Si vous bien y réfléchir, on trouve, il dit Augustin, on trouve chez les manichéens que la région des ténèbres a quand même un certain ordre. Il y a quand même un certain ordre et s'il y a de l'ordre, il y a du bien. Par contre, d'un Dieu, si vraiment il a eu peur de cette ténèbre, il s'est senti menacé en quelque façon, alors ça veut dire qu'il y a du mal chez Dieu. Et c'était quelque chose pour Augustin d'inacceptable. On ne peut pas avoir un principe du bien avec du mal dedans, et on ne peut pas avoir un principe du mal avec du bien dedans. Mais il y a aussi une condamnation morale de la question manichéenne, parce que la distinction de l'humanité en deux catégories, les élus et les non-élus, amenaient à des comportements immondes. Il y a toute une description très intéressante dans la troisième partie du De Natura Boni, de certaines pratiques bizarres qu'ils avaient les manichéens. On trouve aussi une autre accusation, une confutation un peu plus théorique chez Augustin. Et on la trouve par exemple dans les Confessions, dans le livre 7. On la trouve aussi dans un texte qui s'appelle Contra Fortunatum. Contra Fortunatum, je ne sais pas comment on traduit. C'est le nom d'un manichéen quand même. Et c'est là qu'il dit, Augustin, il se demande quel mal ou pu faire à Dieu la nation des ténèbres si Dieu il n'aurait pas voulu combattre contre elle. Je cite Augustin qui dit « Si on répond qu'ils vous en pouvaient faire, il s'en suivrait que vous ne seriez pas inviolable et incorruptible. Et si l'on dit au contraire qu'elle ne vous pouvait faire aucun mal, on a donc pour raison de feindre que vous ayez sujet de combattre. » En fait, c'est très logique. Hein. Si le mal peut faire du mal à Dieu, alors Dieu il n'est pas immuable. Par contre, s'il ne peut pas faire du mal, pourquoi combattre? Et donc c'est ça, c'est pour cette raison qu'il refuse la théorie manichéenne. Et pourtant, dit Augustin, Augustin il dit d'avoir eu à cette époque encore une image totalement spatiale et temporelle de Dieu. Et alors, il ne trouvait pas de réponse à la question du mal. Il y a une phrase très belle à la fin dans le septième livre, et ce serait à lire en latin. Je vais la lire en français et après je vais la relire en latin parce que c'est vraiment... Augustin, à la base, il avait étudié de la rhétorique et souvent dans son langage, on entend ça, cette qualité du langage augustin. Il dit « J'ai cherché d'où pouvait procéder le mal, unde malum, d'où venait le mal ». Et je le cherchais mal, en cette recherche, je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal. Je vais le lire en latin, mais c'est vraiment parce qu'il y a toujours la question du mal. Et quereban unde malum, et male quereban, et in ipsa inquisitione mea non videbam malum. Donc trois fois on trouve le mal, le mal, le mal. On arrive comme ça à la deuxième partie, au deuxième paragraphe de cette première partie. Comment est-ce qu'on pouvait ressortir de la question de l'hérésie manichéenne qui admettait deux principes, le bien et le mal, et une vraie bataille entre le bien et le mal. La solution, c'était la solution des néoplatoniciens, selon Augustin à cette époque, qu'il avait lu certains livres, notamment probablement des Plotin, des Porphyre, des traductions latines. Lui, il ne parlait pas grec. Augustin, il lisait mal, très mal le grec, il parlait latin. Donc, et selon les néoplatoniciens, dit Augustin toujours dans les Confessions, on fait toujours référence au septième livre des Confessions, que je vous conseille vraiment de lire. Alors, les néoplatoniciens, ils enseignent que toutes les choses font partie du bien, selon des gradations différentes, bien sûr, mais que le mal est seulement une manque des biens. Le mal n'existe pas. Le mal, c'est seulement un manque de bien, un privatio boni. Donc le mal, que c'était quelque chose d'originaire, positif, qui existait et de radical selon les manichéens, est pour les néoplatoniciens non radical et probablement non originaire. Il y a un débat entre les interprètes sur la question de la matière chez les néoplatoniciens. Même les choses qui sont corrompues chez les néoplatoniciens sont un certain degré de bien. Car une chose sera du bien jusqu'à quand elle gardera de la mesure, de l'ordre, de la forme. Donc il n'y a rien qui soit vraiment du mal. Le mal n'est pas. C'est ça l'idée des néoplatoniciens. Augustin dit toujours dans le septième livre des Confessions qu'avant, en refusant de reconnaître la présence de Dieu là où il y avait quelque chose qui lui paraît indigne de Dieu, il avait cru à la doctrine des deux substances, donc à la doctrine des manichéens. Maintenant, par contre, ils se rendent compte que toutes les choses sont bonnes dans la mesure qu'ils sont et qu'il y a de la fausseté seulement là où on croit à l'existence de ce qui n'est pas, donc à l'existence du mal. Et cette position, c'est vraiment radicale, si vous y réfléchissez. Il n'y a pas du mal, il n'y a pas du mal fait, il n'y a pas du mal subi, il n'y a pas des maladies, il n'y a pas des souffrances, parce que c'est toujours du bien, ça rentre toujours dans l'ordre des choses. Selon Augustin, il y a une harmonie totale des lettres, organisée selon différentes gradations, comme je dis, et c'est pour cette raison que même si les êtres supérieurs sont à préférer face aux êtres inférieurs, la totalité de la création est toujours préférable aux éléments supérieurs isolés. Donc, c'est une harmonie totale du monde, de la création, il n'y a pas de mal. S'il y a du mal, il y a des raisons que Dieu connaît pour lesquelles il y a du mal. Ça c'est très important parce que dans la première partie du De Natura Boni, toujours l'autre livre à lequel je suis en train de faire référence, donc de la gradation de l'être, de l'inexistence du mal, Augustin, il se déplace complètement de la question manichéen. Pour les manichéens, la question, d'où vient le mal? C'est quoi l'origine du mal? Un de malum. Donc, c'est ça la question. Et Augustin, il se déplace, il dit, oui, d'accord, d'où vient le mal? C'est une question intéressante, mais on se doit poser d'abord la question de la nature de mal, du mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Quid malum? Quid est malum? Qu'est-ce que c'est le mal? C'est ça la question qu'on se doit poser d'abord. La réponse, évidemment, pour les néoplatoniciens, c'est le mal n'est rien. Le mal n'existe pas. Alors, on arrive comme ça au troisième paragraphe de ma première partie, Augustin. Donc, un mal qui est non radical et non originaire. Et Augustin, il ne s'arrête pas au néoplatonisme. En quelque manière, il ajoute à l'image néoplatonicienne de l'inexistence du mal un problème très chrétien, qui est le problème de la création. Donc, pour les néoplatoniciens, il n'y avait pas le problème de la création parce qu'il n'y avait pas un Dieu qui créait le monde. Par contre, Augustin est resté un chrétien, donc pour lui, la question, c'était aussi l'origine de la création. Et pour lui, la différence qu'il y a entre, par exemple, le Fils, entre Jésus, entre le Christ et Dieu, c'est le fait que Christ, il est fait de la même nature que Dieu, des déos, donc de la même nature, il est fait de la même nature, de la même substance que Dieu. Par contre, le monde, c'est fait par Dieu, c'est une œuvre de Dieu, mais c'est la substance du monde, c'est le rien, c'est rien. C'est fait ex nihilo, du rien, c'est une production du rien. Et c'est dans cette distance qu'il y a entre Dieu et Christ, qui sont faits de la même substance d'un côté, et le monde de l'autre côté, qu'il s'en sert en quelque manière chez Augustin la possibilité du mal. Donc, la possibilité du mal, ça n'appartient pas aux choses. Il n'y a pas de choses qui sont mal. Même les choses corrompues, dit Augustin, ils sont corrompus pour une raison d'harmonie totale. La possibilité du mal, c'est seulement dans la volonté humaine. Parce que seulement aux hommes a été donnée la possibilité de bien ou de mal faire. La possibilité du mal, donc, appartient seulement aux êtres rationnels, tels que les hommes, pour lesquels il y a toujours la possibilité de choisir, à travers une volonté totalement libre, entre le bien et le mal. La possibilité de rester en face de Dieu, de regarder Dieu, ou la possibilité de refuser Dieu. Le châtiment dû au péché, et donc la souffrance, le mal involontaire que les hommes subissent, est seulement le résultat d'un jugement juste divin, qui rentre dans la perspective d'un ordre rationnel des choses. Si vous voulez, dans ce contexte, il y a une justification rationnelle absolue du mal, qui anticipe ce que sera pour Leibniz la théodicée. Peut-être que vous avez entendu du débat entre Voltaire et Leibniz, là où Voltaire dit, vu que toi, Leibniz, tu dis que Dieu est absolument bon, il n'y a pas du mal, etc., explique-moi le tremblement de Lisbonne qui avait détruit complètement la ville et qui avait tué des gens tout à fait innocents. Donc, et là, chez Augustin, on a quelque chose pas trop loin de Leibniz. Augustin arrive même à dire, je cite là Augustin qui dit, « Dieu, en décidant de ne pas illuminer certains lieux et certains temps, rendent les ténèbres autant décentes que les jours. En effet, si nous, en retenant la voix, interposons d'un autre parler des moments de silence, il faut dire avec encore plus de certitude que Dieu pose de manière juste les privations de certaines choses. » Un peu plus loin, on est toujours dans le 7e livre des Confessions. Augustin ajoute que la douleur même, c'est du bien, parce qu'elle existe dans la bonne nature et parce que le mal, dans le sens douleur, serait au fond de pire. Je cite encore Augustin parce que c'est intéressant. Il dit, en effet, se réjouir dans l'iniquité, c'est pire que d'éprouver de la douleur dans la corruption. De la même façon, dans le corps, c'est mieux une blessure avec douleur qu'une putréfaction sans douleur. Donc, il y a une justification absolue du mal. C'est ça. Mais on arrive comme ça à la deuxième partie de mon intervention, que c'est là où Augustin s'aperçoit que quelque chose ne marche pas. Il s'aperçoit que si on justifie complètement le mal, quand même, on ne rend pas compte de certaines expériences que chacun de nous il éprouve. Et alors c'est là qu'il commence à développer une, une nature, l'idée d'une nature tragique du mal. Mais je l'appellerais en ces moments, ces deuxièmes moments, quasi tragique. C'est pas tout à fait radicalement tragique, mais c'est quasi tragique. Là où il va faire intervenir la question du péché originel. En effet, alors, oui. En effet, la négativité, cette négativité du mal éthique ne rend pas compte, je disais, de certains traits du mal. Pourtant, réduire, par exemple, tout le mal involontaire que nous trouvons déjà là, malgré nous-mêmes, malgré notre effort de bien agir, à la conséquence de notre action mauvaise, ou au juste châtiment divin, ou encore au bon avertissement que quelque chose, moralement, physiquement, ne va pas. Peut-on vraiment réduire le mal à l'espace de la liberté humaine, de bien ou de mal faire? Ou faut-il plutôt reconnaître au mal une réalité beaucoup plus positive, pour ne pas dire active et agressive? Au fond, les manichéens, ils avaient raison quand ils posaient deux substances. Ils avaient raison au moins d'accepter un caractère agressif et positif du mal. C'est quelque chose dont les néoplatoniciens ils n'arrivaient pas à rendre compte. Donc, et c'est dans le débat avec Pélage, c'était un évêque, un adversaire d'Augustin. Donc c'est avec le débat avec Pélage que Augustin il va développer l'idée d'une mal quasi tragique. Pélage et certains de ses disciples comme Julien, c'est très connu par exemple. Un débat avec Julien, il y a un livre d'Augustin qui s'appelle Contra Julianum, contre Julien. Donc, Pélage contestait l'idée d'une insuffisance originelle de l'homme, qui peut au contraire agir librement selon les commandements de Dieu. Ces commandements nous sont transmis par Jésus, par le Christ, à travers le Nouveau Testament, dans lequel on trouve un parfait enseignement à propos de notre conduite morale. Jésus, avant d'être le Sauveur, est un maître et un prophète, et les évangiles sont avant tout une extraordinaire incitation morale. Ça, c'était l'idée de Pélage. La critique de l'Église africaine, Augustin, il était africain, il faisait partie de l'Église africaine, contre Pélage, ne s'appuyait pas sur les intentions pélagiennes. C'était des bonnes intentions, des intentions morales. Et c'était l'intention de réformer, d'une réforme morale de la communauté chrétienne vers un idéal de perfection. Mais les critiques de l'Église africaine, ils se sont appuyés plutôt sur certains points faibles de la théorie de Pélage. Par exemple, une exaltation du libre arbitre, comme c'était le cas de Pélage, finissait pour dévaloriser la grâce divine, la nécessité du baptême et l'efficacité des sacrements. Augustin s'occupe de la question pélagienne plutôt tardivement. C'est pas vraiment quelque chose qui l'intéresse tout de suite, mais c'est intéressant qu'à partir du 411 et jusqu'au 430, c'est l'année de sa mort, il s'occupe surtout de la question pélagienne. Il s'aperçoit que c'est la question fondamentale. Le péché originel devient de plus en plus chez Augustin le centre de sa théorie du mal. Donc si à l'époque du De Natura Boni et du septième livre des confessions, le mal est, comme nous avons dit, non radical et non originaire, avec l'accentuation du péché originel, le mal devient progressivement radical et originaire. Le mal n'est plus un existant. C'est pas, ça, Augustin, il arrête de parler de quelque chose du mal qui n'existe pas. Il ne s'agit non plus d'une possibilité que de bien ou de mal faire, mais il devient une sorte de nécessité. Le mal devient nécessaire. C'est ça le mystère du deuxième Augustin, là où le mal comme péché originel devient quelque chose de nécessaire. Je ne vais pas ici à suivre tous les thèses d'Augustin contre les pélagiens, mais je vais utiliser justement Ricoeur, qui parle de deux directions du péché originel chez Augustin. D'une part, dit Ricoeur, Augustin avance une argumentation juridique selon laquelle l'inculpation en masse de l'humanité, c'est aussi la disculpation des dieux. Donc nous, on est coupable, on sera jugé. Donc il y a une question juridique du péché originel. Nous, on sera jugé. De l'autre côté, d'autre part, pour combattre Pélage, selon lequel l'homme tente simplement à une imitation d'Adam, mais reste au fond libre de choisir, Augustin parle d'une génération, d'une transmission biologique du premier péché d'Adam. Donc, nous, on a le péché originel parce qu'il nous a été transmis biologiquement à partir d'Adam. Et le jugement de Ricoeur à propos de cette question du mal chez Augustin, mal comme péché originel, est tranchant. Il dit « antignostique à son origine et par intention, puisque le mal reste intégralement humain, le concept de péché originel est devenu quasi-gnostique à mesure qu'il est rationalisé. » Il dit « l'intention d'Augustin, c'était celle de ne pas justifier le mal avec le péché originel, mais de trouver une radicalité du mal. » Mais en effet, si on considère le péché originel comme quelque chose qui est transmis biologiquement, alors on le justifie. Nous, on n'est pas coupable, mais on trouve une justification à la raison du mal. Donc, il voulait résoudre le problème, il n'est pas arrivé à le faire. On arrive comme ça à la troisième et dernière partie de cette intervention. Et je vais ici à me détacher vraiment de la position de Ricoeur, qui l'utilise, il commence à utiliser Kant, justement, pour la question du mal, parce que c'est Kant qui vraiment aurait pensé au mal radical. Et moi, je vais dire que chez Augustin, on trouve des traces de mal radical qu'on ne peut pas réduire ni à la question du mal éthique, donc du mal néoplatonicien, ni à la question du mal tragique, quasi tragique, donc à la question du péché originel. Et on le trouve notamment dans les livres autobiographiques d'Augustin, donc surtout dans les premiers livres de les Confessions, jusqu'au livre 9. On le trouve par exemple dans le deuxième livre, là où il parle de l'épisode du vol de poires. Il raconte que lui, il était un enfant, il était avec des amis à voler des poires, mais pas parce qu'il avait faim, tout simplement parce qu'il avait envie de faire quelque chose. Il avait envie de faire quoi ? Il avait envie tout simplement de pêcher, de faire un péché. Et continue à se demander l'origine, la raison de ce péché, et il n'arrive pas à trouver une réponse. Il se demande qu'est-ce que c'est le péché. Je vous conseille vraiment, là on le trouve dans le deuxième livre des Confessions. C'est très intéressant. Après, on trouve des autres expressions du mal tragique, par exemple dans le quatrième livre des Confessions. C'est là où Augustin, il parle de l'expérience de la mort d'un ami. On ne connaît pas le nom de cet ami à lui qu'il aimant, auquel il était très attaché. Et je vous cite ici, quand il parle de la mort de son ami, il dit « La douleur de sa perte remplit mon corps de ténèbres. Je ne voyais autre chose devant mes yeux que l'image de la morte. Mon pays m'était un supplice, la maison de mon père m'était un horreur. Tout ce qui m'avait plu en sa compagnie m'était devenu sans lui un sujet de tourments et d'affliction. » Donc là, vraiment, il y a une sorte de vécu, l'expérience originaire d'un mal radical. J'arrive comme ça à la conclusion. Dans la conclusion de mon intervention, je vais reprendre un point que j'avais laissé tomber. À bien voir, surtout dans les Confessions et dans le De Natura Boni, la nature du bien, Augustin, il met le mal sur trois plans différents. D'abord, sur une question purement langagière, si on veut. Les manichéens, ils parlaient d'un mal, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils racontaient un mythe, ils racontaient une histoire. Par contre, Augustin, il s'aperçoit de la nécessité d'expliciter au niveau philosophique le mal, de l'expliciter avec des raisons philosophiques, de donner une raison du mal. Donc, ça, c'est sur un plan donc langagère. Après, deuxièmement, sur un niveau ontologique, donc des lettres. Et là, on a vu, chez Augustin, il n'y a pas d'antithèse. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a un bien et il manque de bien. Et enfin, sur un plan purement anthropologique, donc la question de l'homme, le mal pour l'homme, et d'ailleurs c'est cette question qui intéresse vraiment Ricoeur, Augustin parle d'un mal moral qui s'oppose au bien moral. Avec ses gestes, il accepte en quelque façon, en partie, le défi manichéen autour du caractère agressif du mal, en le posant, contrairement à la secte du mal, à l'intérieur de l'homme. Donc il accepte l'agressivité, la positivité du mal, mais il le déplace à l'interne de l'homme. C'est dans l'homme qu'on trouve, dans le péché, qu'on trouve la possibilité du mal. À mon avis, ce qui reste toujours problématique chez Augustin, c'est la distinction entre ces trois niveaux, donc linguistique, ontologique, anthropologique, et en particulier entre l'ontologique, donc l'être, et la question anthropologique. Chez Augustin, l'ontologue est porteur, il y a deux raisons. D'abord, il y a une raison très, très simple et légitime, parce qu'il dit Augustin, nous on fait des choix dans le monde, mais on choisit à partir du monde, donc à partir des êtres du monde. Donc il y a une sorte d'ontologie, de question de l'être, qui fait pression sur la question éthique. Mes choix éthiques dépendent, donc les conséquences dépendent du monde dans lequel je vis, c'est évident. Mais il y a aussi une deuxième raison, plus profonde et plus problématique, et c'est la question qui est l'ontologie de l'être, cette ontologie de l'être qui développe Augustin, fait référence à un statut qui est de Dieu, qui est toute puissante, qui est immuable et qui est absolument bon. Et je trouve que c'est cette description de Dieu comme toute puissante, absolument bon, absolument immuable, que c'est aujourd'hui problématique. Je n'ai pas le temps ici de développer, je vais terminer, mais je vous propose de réfléchir à partir d'un petit livre d'un philosophe juif qui s'appelle Hans Jonas, qui a créé un livre qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz ». C'est ce petit livre, hein, c'est très joli. Non, mais c'est intéressant. Et dans ce petit livre... d'ailleurs, c'est pas un hasard si je cite Jonas qui avait commencé sa carrière philosophique avec Augustin. Donc, il s'était occupé de la question du péché originel chez Augustin. Ce qu'il propose, c'est une idée quasi scandaleuse, celle que propose Jonas, à l'image d'un Dieu immuable et tout-puissant, et donc d'une ontologie de l'être forte qui décharge sur l'homme la totalité du problème du mal, il propose l'idée d'un Dieu qui souffre, qui devient et qui se prend soin de nous. Il s'agit donc d'une idée qui n'est pas étrangère, dit, ni à la tradition juive, ni à la tradition chrétienne. Bien entendu, l'homme reste, selon Jonas, pleinement responsable du mal fait. À Auschwitz, par exemple, Dieu est resté en silence, dit Jonas, mais non pas parce qu'il n'a pas voulu parler, mais parce qu'il n'a pas eu la capacité, la possibilité, la force de le faire. L'homme est libre de faire le mal, et c'est l'homme qui a rendu possible Auschwitz. Néanmoins, on trouve dans l'impuissance divine, non pas une justification, comme c'était le cas d'Augustin, mais une consolation par rapport au mal subi, et pour lequel il n'y a eu qu'une réparation logique et pratique possible, la consolation que Dieu lui-même a souffert et souffre avec nous.
Sans transition, on passe aux lumières.
J'avais préparé quelques résumés pour le public, mais je ne pensais pas que ça allait avoir un tel succès, parce que j'avais compté large en me disant j'en fais 20. Donc peut-être répartir un sur deux.
Un plan, un pour trois,
oui, un plan pour suivre les méandres du mal chez Kant. Alors je tiens tout d'abord à remercier Philippe Godin ainsi que les pasteurs James Woody et Marc Pernaud de nous avoir invités à parler dans le cadre de ce cycle de conférences. Et sans transition, je vais commencer et je vais vous parler de la question du mal chez Kant. Ce que je voudrais tenter de mettre en évidence de manière très schématique, évidemment, c'est une sorte de parcours transversal de la notion du mal dans l'œuvre de Kant, depuis ses œuvres de jeunesse en passant par la période critique et ses écrits sur l'histoire, pour aboutir au célèbre et très problématique concept du mal radical que Kant décrit et développera dans son œuvre tardive intitulée « La religion dans les limites de la simple raison ». J'aimerais montrer que, contrairement à l'interprétation traditionnelle qui considère cet ouvrage tardif et le problème du mal qu'elle expose comme l'œuvre d'un Kant vieillissant en rupture avec les concepts critiques de sa philosophie antérieure, qu'en fait son contenu s'inscrit non seulement dans la continuité de son œuvre précédente, mais bien plus qu'il en constitue une forme d'achèvement. L'introduction d'un mal radical dans la religion dans les limites de la simple raison est certes problématique, car ce concept implique pour Kant une corruption systématique de notre caractère moral par un penchant, dit-il, naturel au mal. Le mal radical semble donc avoir des connotations religieuses suspectes pour les contemporains de Kant, ce qui dérange précisément à cause de sa ressemblance avec la notion du péché originel. Cela n'avait d'ailleurs pas échappé aux contemporains de Kant, qui avaient réagi violemment à l'affirmation d'un tel mal radical. Je cite, par exemple, parmi les critiques célèbres, celle de Goethe, qui, dans une lettre à Herder du 7 juin 1793, avait accusé Kant, je cite, « d'avoir souillé le manteau philosophique avec sa théorie du mal radical, après avoir pourtant passé toute sa vie à essayer de le nettoyer des taches des préjugés ». Fin de citation. Ou encore Schiller, qui écrit à Körner le 28 février 1793, que je cite encore, « Kant n'a rien fait d'autre que rapetasser l'édifice pourri de la sottise ». Fin de citation. Pourtant, nous verrons que Kant s'oppose farouchement à la réduction du mal radical au péché originel, à cause précisément de cet aspect héréditaire du péché, qui supprime toute responsabilité morale de l'homme, et ce que Kant veut refuse à tout prix. Kant recherche plutôt l'origine du mal dans la raison elle-même. Or, précisément, nous allons voir en quoi une telle origine rationnelle du mal, bien que souvent implicitement comprise par Kant dans ses écrits antérieurs à l'écrit tardif, n'est affirmée explicitement que dans la religion, dans les limites de la simple raison. J'en arrive ainsi au plan de mon exposé qui va se diviser en quatre parties. Dans la première partie, je vais aborder le problème du mal dans un écrit de jeunesse qui s'appelle « L'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative ». Dans la deuxième partie, je vais aborder la philosophie pratique et en particulier le mal dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique. Dans la troisième partie, j'aborderai le mal dans l'histoire à travers deux opuscules célèbres, « L'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique » et les conjectures sur le début de l'histoire de l'humanité. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie, je traiterai du mal tel qu'il est développé dans la religion, donc du mal radical. Alors, première partie, donc dans l'essai sur les grandeurs négatives, dans cet ouvrage qu'on dit pré-critique, Kant émet des hypothèses fondamentales pour la compréhension du mal radical. Son argument se fonde en fait sur la distinction entre deux types d'opposition. L'opposition logique et l'opposition réelle. Or, si l'opposition logique n'est qu'une, je cite Kant, qu'une connexion logique sans conséquence, fin de citation, c'est-à-dire qu'elle résulte seulement de l'affirmation ou de la négation d'un même sujet, A ou non A, il en va tout autrement pour l'opposition réelle. Celle-ci constitue en fait une véritable affirmation négative, ce qui veut dire que par elle, deux prédicats d'un sujet sont opposés mais sans contradiction. En fait, la différence entre ces deux types d'opposition se joue au niveau du type de négation. Kant prend garde de distinguer la négation par défaut de la négation par privation. Et si l'opposition logique, précisément, n'utilise que la première, la négation par défaut, l'opposition réelle, elle, est une réalité négative, c'est-à-dire qu'elle implique une autre réalité que celle du prédicat nié. Ce qui veut dire que le mal n'est pas un simple non-bien, le mal est une opposition réelle au bien. Et là, on voit les racines de ce qui fondera, de ce qui donnera le concept du mal radical. Cependant, il est implicite dans cet ouvrage qui est paru 30 ans avant la religion, mais il va pas jusqu'au bout. Même si il applique ce concept d'opposition réelle, il la juge féconde et il l'applique au domaine moral. Il va montrer en quoi, par exemple, le démérite n'est pas une simple absence de mérite, mais une vertu négative qui implique, pour celui qui en est l'auteur, l'existence d'une loi intérieure qu'il enfreint. On est tout près ici encore du mal radical, comme détournement conscient de la loi morale au profit des intérêts égoïstes du sujet. Pourtant, si partout Kant frôle l'affirmation du mal radical, il va finalement relativiser ses avancements à la fin de l'essai, sans doute conscient de ce qu'une telle affirmation implique. C'est comme si, au moment où il était tout proche d'une réalité positive du mal, il n'assumait pas vraiment les conséquences.
Il va alors réduire le mal, à la fin de l'essai, à un schéma simplement physico-mathématique qui fait de l'opposition réelle finalement une opposition simplement quantitative. Et ça, c'est assez drôle parce qu'il donne des exemples. Par exemple, si un homme présente un degré d'avarice égal à 10 et une tendance à l'amour du prochain égal à 12, il sera alors bienfaisant, dit-il, de 2 degrés. Or, en utilisant un tel schéma, Kant évite de se confronter évidemment au vrai problème moral qui se situe moins dans le degré d'intensité de la force d'opposition au devoir que dans la nature ou l'origine précisément de cette force. Donc j'ai à voir la deuxième partie. D'abord, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, l'intention sous-jacente, là, de Kant, c'est la détermination du principe de la moralité. Donc c'est une approche abstraite de ce qui constitue une action morale. Mais cependant, là encore, comme dans l'essai sur les grandeurs négatives, il va s'approcher dans certains développements du concept du mal radical. Il va s'interroger sur l'action bonne et il va être conduit malgré lui à l'idée d'une positivité réelle du mal. Kant va distinguer ainsi les devoirs qui sont conformes à la loi morale selon la lettre de ceux qui le sont selon l'esprit. L'action morale n'est pas du tout la même en effet si on l'accomplit, dit-il, conformément à un intérêt sensible. Par exemple, je ne mens pas par crainte qu'on découvre mon mensonge, plutôt que par respect pour le devoir qui enjoint de ne pas mentir parce que le mensonge en soi va directement contre l'universalité de la loi morale. Donc selon la lettre, mon action est certes extérieurement conforme à la loi morale, mais selon l'esprit, elle s'y oppose totalement. Kant constate donc une tension en l'homme qu'il assimile à une dialectique naturelle entre nos inclinations sensibles et notre raison. Cette tension est en réalité constitutive de l'existence même de la moralité. Car s'il était en notre pouvoir de nous confronter au devoir de manière immédiate, le principe même de toute moralité n'aurait plus lieu d'être. Dans les fondements, quand on arrive donc à la question même de la possibilité finalement est-ce qu'une action morale, tout simplement une pure action morale, est possible ? Comment peut-on être certain en effet que notre action, même si elle est extérieurement conforme au devoir, ne renferme pas un intérêt caché? En fait, il semble impossible, compte tenu précisément de notre finitude, qui fait de nous des êtres déchirés entre les tentations de notre sensibilité et la conscience de la loi morale, de pouvoir affirmer sans aucun doute que notre action n'est mue que par devoir. Nous sommes donc en présence ici de ce qu'on a nommé le rigorisme moral de Kant. Qui Kant aussi en effet constamment dans les fondements entre un rigorisme simplement méthodologique qui le pousse à mettre en doute l'intention qui a présidé à nos actions pour isoler l'acte moral et un rigorisme beaucoup plus fort, un rigorisme dogmatique qui lui implique un pessimisme radical concernant la nature humaine dont il résulte finalement qu'aucun être fini ne peut connaître ce qui se cache au plus profond de nos cœurs. Or, ce pessimisme radical se rapproche, encore une fois, du concept du mal radical. La raison humaine est donc impuissante à pénétrer les mobiles secrets de l'action morale, et la garantie d'une telle action est impossible. Cependant, ce que Kant ne remet jamais en question dans les fondements, c'est la certitude du principe même de la moralité, qui est un fait inconditionnel, quelle que soit l'attitude des individus par rapport au devoir. Mais le problème qui en découle, c'est que si le principe de la moralité abstraite est certes certain chez Kant, il ne parvient pas, on dirait, à sortir de l'hypothétique quand il s'agit de juger des actions morales effectives et non de la simple expérience théorique intelligible de la moralité. Dans la critique de la raison pratique, on est un peu en face du même problème, parce qu'il détermine le fondement de la moralité et l'objet de cette œuvre, c'est aussi uniquement les êtres raisonnables. Il faut savoir que les êtres raisonnables pour Kant, c'est sur un plan idéal, c'est des êtres qui sont toujours déjà tournés vers le bien. Donc l'approche du mal ici est de nouveau abstraite, et même si dans la critique de la raison pure, comme dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant parle certes du côté besogneux de l'homme, qui définit comme à la fois partagé entre une finitude et une infinitude, avec une volonté à la fois sensible et intelligible, cependant, quand il parle de la volonté humaine, il implique, il sous-entend toujours qu'elle est tournée vers le bien. Jamais encore on ne retrouve l'idée d'une mauvaiseté radicale de notre volonté. Précisément parce que, je l'ai dit, il ne parle pas de l'homme fini dans sa finitude, mais de l'être raisonnable. Et ces êtres raisonnables portent en eux le fait de la moralité. Donc, si la critique de la raison pratique ou les fondements nous renseigne certes sur le principe de la morale, elle ne nous dit rien encore une fois sur son contenu. En effet, le fameux impératif catégorique kantien nous oblige formellement en affirmant certes ce que l'on ne devrait pas faire, mais il ne nous éclaire pas sur nos devoirs concrets. L'impératif catégorique kantien nous donne la possibilité d'obéir, mais notre choix reste libre. Alors par impératif catégorique, je rappelle que Kant entend le célèbre principe de la moralité selon lequel nous devrions agir toujours de telle sorte que la règle de notre action puisse être érigée en principe d'une loi universelle. Autrement dit, Kant fait passer nos intentions morales à l'épreuve de l'universalité pour juger de leur pureté. Or, ce choix auquel nous appelle le devoir moral, de la soumission de nos intérêts à la raison, est souvent compromis, précisément parce que nous ne sommes pas des êtres uniquement raisonnables. Troisième partie, donc les opuscules sur l'histoire. Dans le premier d'entre eux, dans l'idée d'une histoire universelle, Kant là va distinguer deux points de vue, celui de l'individu et celui de la nature. Or, on va voir, de l'un à l'autre, le point de vue change complètement, selon qu'on se place en fonction de l'individu ou de la nature. En effet, du point de vue de l'individu, pour Kant, le mal s'oppose au bien comme une réalité négative, mais du point de vue de la nature, le mal semble au contraire servir d'impulsion à l'avènement du bien. Dans la nature, le mal est un progrès, parce qu'il constitue un moyen précisément pour faire ressortir les dispositions excellentes, dit-il, de l'humanité. Kant traduit cette idée par la fameuse image de l'insociable sociabilité des hommes qui les pousse en permanence à s'opposer. Grâce précisément à cet antagonisme naturel, ils peuvent sortir de leur état d'inertie originelle dans lequel aucun arrachement au bien n'est possible. Sans cette insociabilité, selon la célèbre image de la quatrième proposition de l'idée d'une histoire universelle, les hommes seraient semblables à des bergers d'Arcadie, d'où, comme les moutons qu'ils font paître, et ce faisant, ils ne combleraient pas le néant de la création, comme le veut, selon Kant, le plan caché de la nature. Il existe donc indéniablement un dualisme ici dans la pensée de Kant, entre la nature et la liberté. En effet, la liberté comme pouvoir d'insurrection se manifeste par opposition à la nature, en ce que la possibilité du choix exclut précisément tout déterminisme. La position de Kant oscille dès lors entre deux interprétations, celle pessimiste de la nature humaine, il se pourrait que l'homme soit mauvais par nature en choisissant le mal plutôt que le bien, et celle optimiste de l'histoire, l'espèce progresse du mal vers le bien. Dans le deuxième opuscule, dans les conjectures sur le début de l'histoire de l'humanité, le ton de Kant est là aussi résolument optimiste. Ici, il cherche à mettre en évidence l'idée d'un mal nécessaire, encore une fois, au progrès de l'humanité, et celle de la seule responsabilité humaine par rapport au mal commis. Kant donne d'ailleurs une interprétation très personnelle du récit biblique des origines. Selon lui, en effet, à l'échelle de l'espèce, il n'y a pas chute, mais progrès. Le mal constitue ainsi une étape essentielle en vue d'un arrachement progressif de l'homme à son animalité première par l'éveil d'une raison émancipatrice qui rappelle à l'homme qu'il est la seule véritable fin de la nature. Là, on est en plein dans les Lumières. Cependant, l'optimisme de Kant est une fois de plus relatif, parce que, de nouveau, il s'applique qu'à l'espèce, pas à l'individu. Et j'en arrive ainsi à ma dernière partie, à la religion dans les limites de la simple raison. Les premières lignes de la religion nous confrontent de manière immédiate au problème du mal. Kant écrit, je cite, « que le monde est mauvais, c'est là une plainte aussi ancienne que l'histoire ». Fin de citation. En 1793, ce qui intéresse Kant, ce n'est plus ici une approche abstraite, mais une approche anthropologique de la moralité. Kant cherche en effet à analyser l'origine du mal dans le caractère moral de l'homme. Contrairement à ses écrits antérieurs, où il est certes question d'une nature finie de l'homme opposée à une nature infinie, Kant affirme l'existence en nous, d'une perversité radicale de notre volonté, pourtant libre. Et c'est précisément ce « pourtant libre » qui crée le paradoxe. Comment, en effet, notre volonté qui pose, on l'a vu, la loi morale de façon nécessaire, parce qu'on a tous en nous donc, cette conscience immédiate de comment on devrait agir, même si on n'agit justement pas bien, en général, comment cette volonté, donc, pourrait en même temps avoir la possibilité de se nier en choisissant d'agir contre la loi morale, donc contre son propre intérêt moral. Pour Kant, justement, il faut distinguer notre volonté pure de notre libre arbitre. Tout le problème réside dans cette distinction-là, dans le fait qu'on est déchiré entre deux types, deux aspects de notre volonté, et qui constituent à la fois notre infinitude et notre finitude. Et c'est précisément parce qu'en l'homme, raison et volonté ne font pas un, qu'il a la possibilité de transgresser la loi morale. La volonté de l'homme se divise ainsi, donc pour Kant, en un double caractère, à la fois sensible et intelligible. Cette double appartenance fait de la nature humaine précisément une nature hybride, l'homme n'étant ni un animal ni un être divin, mais une sorte de mélange des deux. En effet, chez l'animal, la détermination par la sensibilité apparaît comme une nécessité imposée par la nature, alors que chez l'homme, la détermination par la raison est une possibilité offerte par la liberté. L'écart entre l'autonomie morale et l'hétéronomie du libre-arbitre en l'homme est précisément la preuve que notre raison n'est pas hégémonique et que quelque chose en nous résiste. L'essai sur le mal radical constitue la première des quatre parties de la religion dans les limites de la simple raison. Kant l'a publié dans un premier temps séparément, puis avec le reste de l'ouvrage. L'ensemble forme un tout cohérent qui vise à démontrer la lutte et puis la victoire du bon principe sur le mauvais. Pour ce faire, Kant commence par diviser le caractère moral de l'homme en posant une double dimension au cœur de notre nature. Nous avons ainsi à la fois, dit-il, une disposition originelle au bien et un penchant naturel au mal, qui se divise à leur tour en plusieurs degrés. Premièrement, la disposition originelle au bien. Kant la divise en trois dispositions qu'il conçoit comme des dispositions évidentes et surtout permanentes de l'homme. C'est un point important, permanente, parce que précisément le bien est ineffaçable pour Kant. Aussi mauvais que l'homme puisse être, le germe de bien demeurera toujours. Donc même le pire des scélérats a un germe de bien en lui, et c'est précisément ce qui lui permettra de justifier le dépassement toujours possible du mal. Aussi radical soit-il, le mal n'est pas absolu. Donc, premier degré de la disposition au bien, l'animalité. Kant entend par animalité le stade le plus bas de la nature humaine qui équivaut à l'état de conservation de l'espèce. Le deuxième stade, c'est l'humanité, qui est un stade un peu plus élevé déjà, qui est le stade de l'intersubjectivité entre les hommes et qui implique le lien à autrui. Le troisième et dernier stade, en fait, c'est la personnalité. C'est un stade idéal, c'est le stade purement moral du respect de la loi, c'est le stade des êtres raisonnables précisément, qui équivaut à notre volonté pure. Si ces trois aspects de la disposition originelle de l'homme au bien sont bons en eux-mêmes pour Kant, cependant les deux premiers, l'animalité et l'humanité, peuvent être pervertis par les vices de nature dans le cas de l'animalité, et Kant parle de lascivité et de gloutonnerie, et par les vices de culture dans le cas de l'humanité, Kant parle de la jalousie, de l'envie, de l'inégalité. En revanche, le stade de la personnalité, qui est le stade moral, lui ne peut jamais être corrompu, je l'ai dit, et aucun mal ne peut venir s'y greffer. Ensuite, Kant parle du penchant naturel au mal. Là aussi, il se divise en trois degrés. Et si Kant voit dans la mauvaiseté le degré le plus élevé de ce penchant, le mal radical, une perversion qui ruine littéralement la raison, il admet deux autres degrés du penchant au mal qui ne sont pas inoffensifs mais involontairement mauvais, la fragilité et l'impureté. Par fragilité, Kant entend l'état de faiblesse dans lequel se complaît l'homme la plupart du temps quand il se laisse envahir par ses désirs sensibles au lieu de chercher à tendre vers le bien et de se soumettre au devoir. Par impureté, c'est déjà un stade plus élevé de mal. Kant entend l'état qui fait qu'on agisse en fonction de nos propres intérêts sensibles, tout en nous réclamant d'agir conformément à la loi morale. On l'a vu avec l'exemple du mensonge. On cherche des moyens de s'arranger avec la loi morale au lieu de la suivre. Ainsi, on se revendique vertueux, par exemple, obéissant à la lettre à la loi morale, mais en réalité, on ne l'est que par intérêt, et donc on en dénature l'esprit. Kant parle à ce sujet d'impureté du cœur humain. Enfin, le dernier degré du penchant au mal, c'est la perversité. Kant entend par perversité une mauvaiseté, là, qui nous fait agir consciemment et délibérément contre la loi morale, au sens où on décide d'inverser l'ordre des maximes pour satisfaire nos intérêts égoïstes. Donc on décide délibérément de nous éloigner de la loi pour suivre nos propres intérêts sensibles, alors qu'il faudrait faire le contraire. À ce stade, ni l'esprit ni la lettre de la loi ne sont pris en cause. Il s'agit d'une pure et simple opposition positive à la loi. C'est le mal radical. Ce qui est important de retenir, c'est que Kant définit le penchant au mal comme contingent, sauvant ainsi la possibilité de le dépasser, tout en confirmant notre responsabilité. Mais en même temps, il affirme qu'il est inné. Donc on a là un paradoxe. On a un penchant inextirpable par les moyens humains, parce que définitif, d'une part, et une mauvaiseté qui doit être dominée parce qu'elle ne peut exister que dans l'être fini, d'autre part. On notera donc qu'il n'y a pas d'égalité des principes chez Kant, car si le mal radical s'enracine certes en chacun d'entre nous, il est contingent, donc dépassable, alors que le germe de bien, la disposition bien, est originelle, j'ai dit tout à l'heure, donc ineffaçable. Dès lors, en vertu précisément de cette disposition au bien, il doit être possible de dépasser le mal par ce que Kant nomme un véritable changement de cœur. Le problème, c'est que ce changement de cœur, ou cette régénération morale à laquelle Kant nous appelle, va entraîner des tas d'autres problèmes. Parce que déjà, c'est un concept aux connotations évidemment religieuses, mais surtout parce que oui, on admet que notre disposition interne est corrompue systématiquement par le mal radical, mais alors la régénération morale semble absolument impossible. Ou bien on déduit de notre incapacité à nous arracher de nous-mêmes à notre nature corrompue qu'on a besoin d'une aide surnaturelle, une aide divine, mais là on s'éloigne totalement des critères kantiens de son œuvre critique et des limites de la connaissance humaine. Confronté à ce paradoxe de l'explication de l'origine rationnelle du mal, Kant va rejeter deux réductions du mal. En fait, Kant, contrairement à la tradition d'ailleurs, il refuse catégoriquement d'assimiler le mal au sensible, à nos sens, à la sensibilité, et il refuse également de l'assimiler à une raison qui serait devenue diabolique. Donc il rejette toute réduction du mal au sensible et toute assimilation du mal à un état qui résulterait finalement d'une pulsion maligne, libérée de tout impératif moral, une pulsion qui serait diabolique et donc qui ne reconnaîtrait même pas la loi. C'est contre toute moralité pour Kant. Donc deux certitudes découlent de la conception kantienne du mal. Il ne provient ni de la sensibilité, ni d'une dépravation de la raison morale comme telle. Alors, il ne provient pas de la sensibilité parce qu'elle contient trop peu. Nos sens en eux-mêmes, pour Kant, sont innocents. Le mal ne provient pas non plus d'une raison diabolique parce qu'une telle raison impliquerait trop. Elle impliquerait l'existence d'un mécanisme au cœur de la raison qui pourrait nier l'universalité de la loi, ce qui est tout à fait inconciliable avec la morale kantienne. Mais où est le mal ? Où est l'origine du mal ? Alors, Kant, pour essayer de trouver une solution, va en fait situer l'origine du mal dans un processus vicié, corrompu de notre raison contre elle-même, au sens où nous décidons délibérément d'agir contre notre propre intérêt. Je l'ai dit tout à l'heure, en inversant justement l'ordre des maximes au profit de nos intérêts personnels. Dès lors, nous sommes certes pervertis, mais pas pervers au point de nous opposer ex nihilo à la loi morale. Et notre chute dans le mal est certes radicale, mais pas au sens d'une libération totale par rapport à tout principe. Nous ne rejetons pas l'impératif en lui-même pour lui-même, nous cherchons seulement à le soumettre à nos inclinations sensibles. Cette inversion est certes condamnable, mais elle ne fait pas de notre raison une raison diaboliquement mauvaise. Le mal radical est radical mais pas absolu, et la conversion doit rester possible. Mais comme je l'ai dit plus tôt, la conversion implique d'autres dilemmes, donc l'opposition, la tension entre les principes philosophiques anciens qui sont censés rester dans les limites justement de la simple raison, dans les limites de la connaissance humaine, et cette nécessité d'un changement de cœur, parce qu'on Kant affirme quand même que notre penchant mal corrompt systématiquement notre caractère. Et ce changement de cœur, il le dit lui-même, il doit avoir lieu en dehors du temps sensible. Le problème donc, c'est qu'il suppose une régénération divine. Pour sortir de cette impasse, Kant va à nouveau jouer sur la différence de compréhension entre deux niveaux de la volonté humaine, empirique et intelligible. C'est précisément au deuxième niveau, intelligible, qu'il se réfère quand il s'agit de défendre l'idée d'une renaissance morale. Toute la question consiste précisément à comprendre comment il entend faire cohabiter deux mondes apparemment incompatibles. Cette complexité de la division de notre volonté est présente avant 1793. Cependant, la volonté est alors décrite comme clairement orientée en vue du bien. Dans la religion, dans les limites de la simple raison, en revanche, Kant associe la volonté humaine à la fois à un pouvoir et une faiblesse. Les êtres humains sont donc libres de choisir le bien ou le mal. Mais si la liberté est aussi une liberté d'agir contre le bien, il devient problématique de l'associer à l'idéal moral. Pour contourner cette difficulté, Kant insiste de nouveau sur la différence d'usage de la volonté pure, du vil, et du libre arbitre, du vil cur. Cette distinction permet ainsi d'expliquer comment nous pouvons être à la fois des êtres finis, avec une volonté empirique, obligés de choisir entre les mobiles sensibles et le devoir, d'une part, et des êtres infinis, avec une volonté intelligible, dont le caractère originel et atemporel rend immédiate l'adhésion au seul respect de la loi morale, d'autre part. Dès lors, si au niveau de notre caractère intelligible, la maxime suprême est toujours la conformité à la loi morale, et a été choisi en dehors du temps et une fois pour toutes, cela n'empêche pas pour Kant la part empirique de notre caractère situé dans le temps de se détourner de la loi au profit de nos inclinations égoïstes, même si, on l'a dit, on ne peut jamais détruire le germe de bien en nous. Il faut donc bien maintenir une différence entre la concrétisation et le postulat d'une humanité intègre et tournée vers le devoir, parce que si la concrétisation est idéale chez Kant, le postulat, lui, est une nécessité fondatrice de la morale elle-même. Kant établit donc une distinction fondamentale entre ce que nous devons faire selon notre caractère empirique et ce que nous devons faire selon notre caractère intelligible. Dans cette nuance essentielle précisément, se comprend la nuance entre la réforme graduelle et la révolution. En effet, en tant qu'être fini, en tant qu'être empirique, bien sûr, on n'a pas d'autre choix qu'un progrès constant du mal vers le bien. Mais en tant qu'être infini, à cause de la part intelligible de notre caractère, là, c'est par révolution, il faut une révolution de l'intention morale. Et là, Kant utilise des termes religieux, il parle il faut qu'il y ait une mort du vieil homme au nouveau, il faut une renaissance morale. Et là, il convoque vraiment des concepts clairement religieux. Kant dit d'ailleurs que Dieu, qui voit au plus profond des cœurs, est évidemment au-delà des différences entre caractère empirique et caractère intelligible, et sera seul jugé de la pureté de nos intentions morales. Ce thème d'ailleurs du Dieu scrutateur des cœurs est évidemment un thème très classique en philosophie et en théologie, et on pense ici à saint Augustin, qui a développé cette idée d'un Dieu qui m'est plus intime à moi-même que moi-même dans les confessions. Kant s'inscrit résolument dans cette tradition, mais sa profonde originalité se manifeste dans son refus de réduire le mal au sensible ou à un simple manque de bien. Le mal est radical parce qu'il renvoie au mécanisme perverti de notre volonté qui décide seul et consciemment d'agir mal contre son propre intérêt moral. Augustin, en l'occurrence, situait certes l'origine du mal, on l'a vu, dans le libre arbitre de l'homme, mais il réduisait son statut à une absence de bien. Alors que chez Kant, c'est une réalité positive de force équivalente au bien. En même temps, Kant, il ne parvient pas, in fine, à justifier quelle est l'origine ultime de cette perversion radicale. Donc là, il retombe dans la porine. Pour conclure, donc, les tensions liées au concept du mal chez Kant soulignent en réalité justement la difficulté insurmontable de la recherche de l'origine ultime du mal. En effet, une telle origine impliquerait de savoir précisément ce qui préside à tout acte de liberté, ce qui est impossible. La complexité du sujet est d'autant plus redoutable que l'introduction d'un mal radical en l'homme a révélé que le pouvoir de choix de notre liberté est en réalité également un non-pouvoir, un contre-pouvoir, celui de choisir contre la loi morale elle-même. L'impératif catégorique qui s'impose à nous tient en effet son caractère absolu du fait qu'il n'est pas précisément dans notre nature d'être tourné spontanément vers le bien. Cependant, le choix, on le garde en permanence, ce qui implique qu'on peut toujours décider de s'éloigner ou de s'accorder avec le devoir, et on peut évidemment décider de s'éloigner du devoir, même avec le sentiment moral en nous. Les tensions révèlent donc en réalité la perspicacité kantienne par rapport à la complexité de la nature hybride de la volonté humaine, dotée d'un double caractère, elle aussi en effet en permanence, entre la finitude de son libre arbitre et la possibilité infinie de sa propre régénération morale. Je vous remercie.
Voilà, nous avons devant nous un quart d'heure pour faire rire un peu, à la fois pour des éléments d'explication, de compréhension, et puis peut-être pour proposer d'autres points de vue ou des questions qui surgissent. Voilà, je vous laisse peut-être quelques instants pour reprendre votre souffle et vos esprits. Dans les deux cas, on a l'impression qu'au fur et à mesure, il leur semble inévitable, aussi bien à Augustin qu'à Kant, que l'individu a besoin de quelque chose qui lui est extérieur pour échapper au mal. L'impression que les deux, finalement, au fur et à mesure de leur recherche, se disent individuellement, on n'est pas assez armé pour lutter face au mal.
Oui, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le développer dans cet exposé, évidemment, mais c'est un peu le point de départ de Ricoeur, qui s'appuie sur Kant et qui reconnaît il dit qu'il admire précisément l'honnêteté de Kant, de cette aporie de l'inscrutabilité, parce que Kant reconnaît dans son ouvrage à un moment donné que sur l'origine ultime, finalement, l'origine ultime du mal, on ne peut pas se prononcer. En même temps, ça c'est dans le texte principal de la religion. Dans les parerga de la religion, qui sont en fait, en théorie, des notes ajoutées, un commentaire ajouté au texte principal, en fait c'est beaucoup plus que ça, parce que Kant craignait la censure. Dans une note très importante, en fait, il explique que finalement la raison humaine ne suffit pas et qu'on a besoin pour satisfaire à son angoisse morale, à son impuissance morale, d'une ouverture aux idées transcendantes. Et on a besoin de Dieu, mais évidemment il ne pouvait pas le dire parce que c'était complètement contre tout ce qu'il avait dit avant, mais qu'il y a il utilise le procédé de l'analogie, il utilise cet appel à une assistance divine. Et en fait, Ricoeur, il va partir de là, il va le développer précisément, il va partir de cette aporie pour ouvrir, il va partir de l'aporie rationnelle, mais en l'utilisant de façon positive et en ouvrant au symbolisme religieux pour essayer de trouver une réponse à cette impuissance, en fait. Et ça élargit
beaucoup. Oui, chez Augustin, la réponse est beaucoup plus simple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Dieu. Donc, le péché originel, l'homme est complètement coupable du péché originel. Et à partir d'un certain moment, Augustin s'aperçoit de la nécessité absolue et radicale. D'ailleurs, il s'agit d'une interprétation de l'Épître aux Romains, du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Là, il dit, là, je m'aperçois qu'il y a besoin de l'aide absolue de la grâce divine. Donc, ça devient... Et de plus en plus, si on... ça, là, on est vers la fin, on est en 397, c'est Ad Simplicianum, c'est un texte... un dialogue avec un ami à lui, et après de plus en plus le problème de la grâce devient quelque chose de radical, vraiment il s'aperçoit de la nécessité de quelque chose d'extérieur, divin, pour nous sauver du péché originel. Donc c'est ça.
La parole est à vous.
Moi j'ai l'impression aussi que dans Kant, Dieu inauguré ou clos, ou plutôt duré, ou que vous servez à clore, closer la série des premières causes et des dernières fins. Alors finalement, il disait, il y avait Dieu et le monde existe bien, mais Dieu est supposé, et Dieu est supposé, est supposé dans l'imagination des hommes. Alors, est-ce que c'était pour ça le problème, le rapport de Dieu au monde dans Kant, non?
Est-ce que finalement l'intervention ultime de Dieu dans la résolution du mal ne serait pas une manière de justifier l'hypothèse Dieu, dire finalement on en a quand même besoin?
Oui, moi je vais clairement dans ce sens là ouais. Mon interprétation de Kant va tout à fait dans ce sens, effectivement.
Ne soyez pas intimidés, hein. C'est le moment aussi un peu de dédramatiser Emmanuel Kant, hein, de le prendre par le col et de le faire causer un peu. Hein.
Moi, je peux poser une
ouais,
question.
Oui, bien sûr.
J'ai une question. Ouais,
ouais. Ce sont les pires en général.
Non, c'était pas. J'ai trouvé intéressant parce que tu as insisté deux ou trois fois, tu as nommé et tu as donné une sorte de définition du mal chez Kant. Mm-hmm. Tu as dit que c'est un mal radical mais non absolu. Donc, c'est parce que moi, par contre, j'ai dit que chez Augustin, on passe d'un mal qui est non radical et non originaire à un mal qui est radical et originaire. Y a-t-il une relation entre l'originel et l'absolu, entre l'origine et la destination? C'est ça. Donc, la question, c'est tout simplement... Pour Augustin, je trouve que le mal, c'est un limite temporel. Il y a toujours une eschatologie du bien. Donc, on sera jugé, mais on sera aussi sauvé à la fin. Il y a quelque chose pareil chez Kant. Il n'y a pas cette dimension eschatologique du bien et du mal. Il n'y a pas.
C'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est que... c'est pas aussi clair, enfin, il est en permanence, enfin, en même temps, il devrait pas y avoir de dimension effectivement eschatologique. Le mal doit être contingent. Le mal n'est pas radical au sens d'absolu parce qu'il peut, il doit rester dépassable. Mm-hmm. Le problème du dépassement, comme je l'ai dit après, et de la conversion, c'est que ça implique finalement une eschatologie, justement, parce que ça implique une aide divine. Et là, ça suffit plus de dire que le mal est juste contingent et il peut pas expliquer la régénération morale sans convoquer une eschatologie. Et c'est pour ça que là, il y a une ouverture à l'assistance d'en haut, même s'il se justifie toujours, parce qu'il essaie toujours de rester dans les limites de la simple raison. Alors il dit, pour l'homme qui a mis tout en œuvre durant toute sa vie pour agir conformément au bien, même si ça ne lui est pas dû, etc., pour éviter le désespoir moral, il faut qu'il y ait une possibilité de dépasser, enfin de confirmation, enfin de ce dépassement par une assistance divine, en fait.
Oui, parce que j'ai l'impression que chez Augustin, si le mal, ce n'est jamais la première parole, mais ce ne sera jamais non plus la dernière. Il y a toujours cette image chez Augustin, le fait qu'on ne commence pas avec le mal, même le péché originel, c'est quelque chose qui n'est pas originaire, parce que ça commence avec Adam, Et ce n'est pas la dernière mot, parce qu'après le jugement, il y aura, on sera sauvé en quelque façon. Donc c'est un radical, mais peut-être pas originaire et pas absolu chez Roussin aussi.
Alors quand il parle d'eschatologie, c'est ce qui arrive vers la fin, hein, quand ça devient vraiment long. Est-ce que la différence entre Augustin et Kant, ça serait quand même pas que l'eschatologie, c'est-à-dire le moment où ça se résout, chez Kant, ça dépend de nous, et ça peut être ici et maintenant, alors que chez Augustin, c'est de toute façon reporté à la fin de l'histoire, et ça ne dépend vraiment pas de nous. Est-ce que là, il n'y a pas vraiment une différence entre les deux ?
Ricoeur, il y a une expression qui dit Ricoeur dans un texte qui s'appelle « L'image des dieux, l'épopée humaine », c'est un texte, vous le trouvez dans le livre qui s'appelle « Histoire et vérité », où il dit... Avec Augustin, il y a un choix théologique très fort qui influence toute la tradition. Le fait que le mal, c'est quelque chose qui regarde la totalité de l'humanité, donc l'histoire, etc. Par contre, la grâce, ça devient quelque chose de très personnel et individuel. Donc on a un lieu singulier de la grâce et un lieu généralisé du péché. Et ça, oui, je trouve une sorte de... Je trouve intéressant. Et, aussi parce, et c'est là qu'on trouve une réponse à la question de l'histoire. Le jugement, c'est final, donc c'est historique. La Cité des Dieux, c'est une image. La Cité des Dieux, c'est un livre qui a écrit vers la fin de ses années Augustin, où il parle de, justement du jugement divin qui arrive à la fin, où on va diviser les deux villes, la ville de Dieu, la ville des hommes, etc. C'est un jugement historique sur le péché, mais la grâce, ce n'est pas quelque chose qui historiquement sera déterminé à la fin des temps. Quelque chose, c'est une promesse, mais c'est pas historique, voilà. Donc ça dépend de quelque façon de la, pas de la liberté humaine, mais ça dépend, se trouve à l'intérieur de l'homme, donc dans la conscience humaine quand même.
Pardon.
Ça peut être corrigé le mal. Il y a la possibilité de corriger le mal. Dites-nous oui.
Oui. Non, chez Kant, il appelle à un progrès infini, justement, dans cette direction de surmonter, de dépasser le mal, même si il arrive jamais ni à expliquer d'où il vient originellement, ni évidemment à trouver la solution ultime ou à trouver le fait comment on devrait agir pour être naturellement tourné vers le bien. Parce que précisément, on est des êtres libres, donc on a toujours le choix de ne pas...
C'est la douleur, ça peut nous protéger du mal. C'est un buisson.
Non, là, je disais... Par contre, chez Augustin, non, il n'y a pas cet espoir. Je suis désolé. Mais non, le péché originel, c'est quelque chose qui reste. Et vraiment, si vous prenez le conte Julien, c'est un texte du 421, c'est épouvantable, ça fait peur. Donc la dimension du péché originel, ça devient vraiment tellement radical. Et sans espoir, c'est quelque chose de... par contre... C'est vrai que c'est ça. Mais si on lit les confessions, là où Augustin parle de ses conversions, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de résoudre le mal. Lui-même, il faisait ses péchés, il était quand même dans les tentations, etc. Et il trouve des réponses qui ne sont bien sûr pas définitives. Donc peut-être ils ne vont pas toucher.
Mais
oui.
Mais on peut mieux dire.
Exactement.
Avec douleur, mais ça mal contre lui.
Exact, j'ai cette impression. Alors, si on lit le Augustin qui discute avec les autres on ne les appelle pas théologiens, mais avec les autres pères de ce temps, avec les autres évêques, dans les débats, avec les manichéens, etc., il n'y a pas tellement de soi. Mais si on lit vraiment le côté autobiographique d'Augustin, donc son expérience personnelle, on aperçoit qu'il n'y a pas de solution finale à la question du mal, il y a quelque chose qui reste, mais il y a quand même une évolution. Donc, voilà.
Oui.
Est-ce que ça ne procède pas justement par révolution plutôt que par évolution?
Oui, ou par conversion. Donc,
c'est toute la question est là, effectivement, non, c'est vrai. Et bah, chez Kant, il sépare, je l'avais dit, le progrès moral à notre niveau et la conversion, la révolution morale qui, elle, implique effectivement une dimension intelligente.
Qu'il se corrige en lui-même. Mmh. Qui se corrige en lui-même. C'est ça, quand il se corrige en lui-même. Alors que d'autres philosophes, comme Hegel, qu'on a vu, qui sont plus radicaux, qu'on dise œuvre pour faire un renversement de la pensée carrément. Mmh.
Oui, Philippe.
Oui, à propos de ce que j'ai cru comprendre, à propos des traités historiques, j'ai cru entendre, en somme, que le mal est une permet à l'espèce de progresser, en somme. Hein. Donc il y a une espèce de puissance dynamique du mal. Donc le mal est un éveil, en somme. Hein. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce point, montrer comment Kant l'a...
Au niveau de la nature, au niveau de... Il y a un progrès, parce que s'il n'y avait pas un antagonisme naturel au sein de la nature, on serait réduit à une forme d'inertie.
La nature, mais une nature physique? Ou est-ce que les hommes y sont compris?
Non, c'est une bonne question. C'est les deux, en fait.
Mais je peux. Et peut-être que la différence entre Augustin et Kant, vraiment par rapport à la question du mal, mais je ne sais pas si Léon, tu es d'accord, c'est vraiment. Il y a chez Kant un esprit de lumière, donc une confiance sur le développement, la possibilité des progrès, dans le bien. Chez Augustin, il n'y a pas ça. La cité de Dieu et la cité des hommes, il reste jusqu'au dernier jour deux cités complètement séparées. Et il n'y a pas cette concept d'évolution du mal au bien chez Augustin. Il y a vraiment une distinction très nette. Quelque chose qui est chez Kant, peut-être, c'est l'esprit des lumières.
Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, finalement, Saint-Augustin est beaucoup plus pessimiste que Kant. Et oui. Chez Kant, il y a un espoir moral, en fait. Et d'ailleurs, Ricoeur, il s'appuie là-dessus. Et lui, il parle de la religion dans les limites de la simple raison comme d'un livre fondateur d'une philosophie de l'espérance. Parce que pour Ricoeur, il y a un vrai espoir contenu dans l'ouverture au symbolisme religieux chez Kant, qui aide la raison en proie à une impuissance morale à cause du mal radical à s'élever vers le bien, en fait. Et donc il dit qu'il y a, carrément un schématisme de l'espérance qui se lit dans la religion dans la limite de la simple raison.
Du coup, j'ai une question aux philosophes, indépendamment d'Augustin et de Kant. Et pour prolonger la question de Philippe, on pourrait se dire, quand je vois quelqu'un agir en faisant le mal, ça aiguise ma conscience morale et ça peut m'inciter à faire le bien. Est-ce que du coup, le postulat qui était celui d'Augustin, il ne peut pas y avoir de mal en Dieu, ne serait pas un postulat faux? Est-ce que dans une certaine mesure... vous n'imagineriez pas qu'il y aurait une pédagogie de Dieu qui serait une pédagogie par le mal? Une réponse authentique et sincère.
Ça, c'est une réponse très gnostique du mal. Donc, on est encore en train de justifier le mal. Mais peut-être que le message le plus profond chez Augustin, c'est le fait que le mal, on peut le pas. Vraiment le plus profond, et on le trouve surtout après dans l'interprétation ricœurienne. De Augustin, à la fin, c'est qu'on peut pas, on doit pas chercher une justification logique du mal. Donc, si on essaye de trouver une pédagogie du mal, c'est déjà une réponse.
Et on justifie. Oui.
Une justification d'ailleurs qui se retrouve chez un autre philosophe sur lequel j'ai travaillé, qui lui redevient complètement gnostique, c'est Schelling, parce que Schelling, lui, il va essayer de il se base aussi d'ailleurs sur le texte de Kant, sur le mal radical, et il reconnaît la très forte idée véhiculée par le mal radical. Mais lui, il veut trouver une solution, en fait, et donc il veut absolument justifier le mal, et il va jusqu'à poser le mal en Dieu pour justifier ça. Et donc, en fait, pour Schelling, la possibilité du mal est en Dieu, et c'est l'homme qui la rend effective, en fait, à cause de la chute. Donc là, il y a
Oui, par contre, il y a un petit texte de Ricoeur qui s'appelle Le mal, un défi pour la philosophie. Et à la fin, il dit quand même, il reste, il y a une tâche à accomplir par rapport à la question du mal. Et il y a, c'est une triple tâche. D'abord, une tâche logique, donc il faut continuer à réfléchir sur le mal. On ne peut pas dire que c'est tout simplement injustifiable. Il faut continuer à faire une philosophie du mal, un raisonnement sur le mal. Il faut faire une pratique sur le mal, donc agir pour répondre au mal. Mais en dernière instance, il faut faire ce que je disais à la fin, trouver, chercher en Dieu, non pas une justification, ouais, mais une consolation au fait que Dieu, il n'est pas quelque chose qui nous donne une réponse à le mal. Oui, mais il donne quand même une consolation à notre souffrance si on s'aperçoit, si on croit que Dieu, il est en train de souffrir avec nous. Donc, tout simplement. Et ça, c'est une réponse très similaire à celle de Jonas dans le texte dont je vous ai parlé avant.
Alors, juste deux dernières interventions, vous, et puis je serai aussi la parole à Philippe.
Bien sûr, Jonas, il était juif, donc il avait des problèmes avec la résurrection, mais...
Non, c'est juif comme concept, c'est un concept juif.
Oui, c'est vrai, mais tu as absolument raison. Et Augustin, d'ailleurs, il utilise la résurrection comme exemple, comme, par exemple, paradigme de la grâce, en fait. C'est la mort de Dieu comme péché. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que la résurrection devient un paradigme pour exemplifier cette consolation.
Philippe, et puis...
Oui, peut-être juste un mot. En vous écoutant parler, effectivement, je me disais, oui, comment comprendre les points communs et les grandes différences entre deux philosophes, mais aussi, d'une certaine manière, entre deux chrétiens vis-à-vis de la question du mal. Alors, c'est vrai que la question du mal, on peut la représenter d'une manière un peu antagoniste, assez classiquement. Dans la grande tradition platonicienne, c'est « nul n'est méchant volontairement ». Donc, il y a cette idée que le mal procède toujours de l'ignorance et que, finalement, petit à petit, par une sorte d'obscurantisme qui fait que nos penchants sensibles ont fini par recouvrir notre nature intelligible, on ne peut effectivement que commettre le mal. Et donc, la solution du problème du mal, c'est évidemment la connaissance, c'est d'arriver à réintégrer en quelque sorte les droits de la nature intelligible sur les penchants sensibles. Donc ça, c'est la grande tradition philosophique qui perdure d'ailleurs jusqu'à Kant. Bon. Et puis, à la fameuse formule de Pascal, on ne commet jamais si bien le mal qu'en pleine conscience. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit bien que dans le problème du mal, il se joue tout autre chose que simplement de la bêtise ou de la bestialité. C'est-à-dire que seul l'homme, par rapport à tout autre animal, est capable d'une infinie méchanceté. De telle sorte que le mal dont l'humanité se rend capable témoigne de quelque chose de quasiment surnaturel qui dépasse les limites de la nature. Et qui témoigne du caractère intelligible de l'homme dans la méchanceté même. Et là, c'est, me semble-t-il, la supériorité des chrétiens sur les païens, c'est de reconnaître le caractère spirituel du mal. Et on voit bien comment Augustin et Kant s'en dépatouillent d'une manière différente. C'est-à-dire que la solution augustinienne, qui est celle du péché originel, ressemble peut-être, c'est une sensibilité un petit peu à la Luther, peut-être, c'est-à-dire une inculpation générale de l'humanité, mais qui a en creux une forme de déculpabilisation ou de salut de l'individu vis-à-vis duquel on ne peut avoir qu'une forme de compassion, de la même manière qu'on a souvent beaucoup de compassion à l'égard de soi-même. Donc il y a une humanité d'Augustin, un caractère religieux d'Augustin qui est assez beau, qui est assez belle dans cette espèce de chute comme ça, et puis en même temps avec l'attente d'une grâce, un peu à la Luther, un peu en blanc et noir. Quoi. Alors ce qui est remarquable chez Kant, c'est que lui aussi, évidemment, ne se contente pas d'une explication intellectualiste selon laquelle on se sortirait du mal par un simple effort de la connaissance. Et effectivement, vous l'avez expliqué, la radicalité du mal, ce n'est pas donner au mal un caractère absolu. Mais ce qui est très intéressant chez Kant, c'est que dans un premier temps, il y a une opposition entre nature intelligible et nature sensible. Mais en même temps, vous avez refusé d'identifier le mal uniquement au sensible. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est la différence entre le monde sensible et le monde empirique. Et peut-être que pour comprendre ce que dit Kant, il faut lire ce qu'il dit tout simplement sur l'éducation. C'est-à-dire que vis-à-vis des questions pratiques, c'est toujours intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pratiquement. Or, ça c'est la question de l'éducation. Et Kant dit effectivement, il faut toujours commencer par la loi morale que l'enfant porte en lui, donc il est optimiste, ce germe du bien ne disparaît jamais, il faut toujours parier sur une bonté humaine jamais corrompue. Et n'oublions jamais que Kant avait dans son bureau le portrait de Rousseau, n'est-ce pas ? Et en même temps, Kant dit, oui, mais un enfant élevé sans discipline ne peut pas manquer de devenir méchant. Donc il y a bien un pessimisme de Kant, mais il dit, c'est ce que l'expérience montre. C'est-à-dire que la radicalité du mal n'est démontrée que par l'histoire, et non pas par le concept de l'homme. Et c'est là que la religion intervient de manière intéressante chez Kant, c'est que le récit biblique est le seul qui soit à la mesure du problème. Et là, pour le coup, il y a une intelligence religieuse qui vient donner des réponses là où l'intelligence philosophique cadre. Et je crois que la grande différence entre les deux penseurs, ça tient tout simplement à l'époque aussi dans laquelle ils sont, c'est qu'il y en a un qui a une conception de l'histoire qui est purement et simplement une histoire sainte, et une histoire eschatologique dans laquelle la solution des problèmes arrivera en Dieu et à la fin de l'histoire, alors que la grande nouveauté moderne, c'est qu'il y a un optimisme historique chez Kant. C'est-à-dire qu'il y a un progrès dans l'histoire, effectivement. Et l'insociable sociabilité de l'homme, c'est bien dans l'homme que ça se passe. Les hommes ne peuvent pas se passer les uns des autres, ne peuvent pas se supporter les uns les autres, mais de cette opposition ou de cette concurrence, il ne peut naître que le développement des bonnes facultés, en quelque sorte. Et il dit que tout se passe comme si Dieu avait quand même voulu, dans son plan, selon la nature, mais par l'histoire, et seulement par l'histoire, qu'un progrès intelligible et un progrès moral, et pas simplement légal, s'accomplisse.
Je peux dire. Oui, c'était. Non, c'était parfait. Je voulais seulement ajouter.
Très bonne note.
Non, c'est vrai. Et que d'ailleurs, chez Augustin, il n'y a jamais la question du mal fait référence au problème de la connaissance. C'est pour ça que je pense que vous avez très raison. C'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Mais vraiment, non, parce que c'est dans la tradition philosophique, typiquement philosophique, qu'on pose Socrate qui disait on est méchant parce qu'on ne connaît pas assez les choses. Et chez Augustin, il ne lit jamais la question du mal à la question de la connaissance. Donc c'est vraiment l'antiphilosophie. Là, c'est vraiment une approche très religieuse à la question du mal. Vraiment.
Très bien. Eh bien, encore un grand merci à vous deux.